Deuxième topo, donc justement sur les tests biologiques par le docteur Cécile Tolindou qui travaille donc au CNRHP.
Bonjour. Donc oui, je vais vous parler des tests biologiques et de leur capacité à prédire la sévérité de la maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né. Alors, quelques rappels physiopathologiques pour commencer, que vous connaissez tous. Donc, lors d'une grossesse, il peut y avoir, suite à des micro-lésions du placenta, un passage d'hémacie fœtale dans la circulation maternelle. Donc, ces hémacies fœtales vont pouvoir être phagocytées au niveau de la rate chez la mère par le système macrophagique. Et les antigènes érythrocytaires dégradés et présentés sous forme de peptides antigéniques sur des molécules de CMH, sous lymphocytes T spécifiques. Présent donc dans la rate et induire ainsi une réponse T spécifique dirigée contre les antigènes érythrocytaires fœtaux. Parallèlement aussi, une réponse lymphocytaire B peut se développer au niveau de la rate. Et suite à la coopération entre ces deux cellules, avec le switch isotypique, la maturation d'affinité et la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes, on va avoir production d'une quantité importante d'anticorps de type IgG de haute affinité dans la circulation maternelle. Donc ce sont ces anticorps qui vont ensuite pouvoir avec un transport actif grâce au récepteur FCRN, traverser donc le placenta et se retrouver donc dans la circulation fœtale où ils vont pouvoir reconnaître l'antigène dont ils sont spécifiques. Et ces globules rouges, donc opsonisés par les anticorps, vont ensuite être captés par les macrophages du fœtus et être détruits soit par des mécanismes de cytotoxicité ou des mécanismes de phagocytose. Donc cette destruction des masses fœtales va aboutir donc à une anémie chez le fœtus et chez le nouveau-né, puisque les anticorps maternels vont persister plusieurs mois dans la circulation, et également à la production donc de bilirubine suite au catabolisme de l'hémoglobine, ce qui est responsable donc de l'ictère. Donc on voit bien que la physiopathologie elle est assez complexe et donc trouver un test biologique qui permette de prédire donc les signes cliniques d'anémie et d'ictère paraît déjà d'emblée compliqué. D'autant plus que donc en prénatal on ne va avoir accès finalement qu'au sang de la mère. Donc il y a quand même un certain nombre de tests biologiques qui ont été développés historiquement pour essayer de prédire ce risque de maladie hémolytique sévère. Donc essentiellement, le premier des tests, bien sûr, c'est de déterminer la spécificité des anticorps, puisqu'on va le voir selon l'antigène érythrocytaire reconnu, la dangerosité des anticorps n'est pas la même. Des tests également pour pouvoir définir l'affinité des anticorps pour l'antigène cible, c'est-à-dire leur capacité à reconnaître l'antigène. Donc c'est essentiellement la technique de titrage qui va nous apporter ces informations. Des tests pour établir la concentration des anticorps. Donc le titrage nous donne déjà une idée de la concentration des anticorps, mais on peut la mesurer vraiment plus précisément en faisant un dosage par rapport à un étalon. Donc il y a trois types de techniques qui ont été développées, la technique d'hémagglutination en flux continu, et plus tardivement les techniques ELISA et les techniques de cytométrie de flux. Et enfin, donc on peut également voir la capacité des anticorps maternels, une fois qu'ils ont reconnu les antigènes présents sur les hémacies fœtales, à activer les monocytes et les macrophages du fœtus. Donc là, ce sont des tests fonctionnels cellulaires, donc des tests de cytotoxicité, et puis également des tests de phagocytose ou des tests de réponse métabolique qu'on détaillera par la suite. Donc la spécificité des anticorps, donc ça c'est bien codifié dans le suivi immunohématologique de la femme enceinte, on fait d'abord une recherche de la présence de ces anticorps et en cas de positivité, on va faire une identification de ces anticorps. Donc il y a différentes techniques d'hémagglutination qui existent, qu'elles soient en gel, en tube, en plaque, en technique d'immunocapture, et elles sont toutes basées sur la technique du test indirect à l'antiglobuline. Elles utilisent maintenant toutes des milieux de basse force ionique, donc c'est des tampons qui permettent d'accélérer la réaction et de détecter des anticorps de faible affinité. Donc, ce qui permet vraiment d'avoir des techniques très sensibles. Donc, le principe, c'est de tester le sérum ou le plasma des patientes vis-à-vis d'une gamme d'hématies tests qui provient de donneurs qui ont différents profils d'expression antigénique. Et en fonction donc, des hématies qui vont être agglutinées, on va pouvoir déterminer la spécificité des anticorps. Donc, selon cette spécificité, on distingue trois types de profils d'anticorps en termes de dangerosité obstétricale. Donc, des anticorps qui ont peu ou pas d'action hémolytique, donc c'est notamment les anticorps dans le système Lewis, Lutéran ou P1, parce que la cible antigénique est très faiblement, voire pas du tout exprimée sur les hématies fœtales et néonatales. On a des anticorps, c'est la majorité, qui vont avoir une action hémolytique uniquement sur les globules rouges matures, c'est notamment le cas des anticorps de spécificité anti-RH. Et des anticorps qui vont avoir une action non seulement sur les globules rouges matures, mais aussi sur les précurseurs érythroïdes, qui vont avoir une inhibition de l'érythropoïèse qui va donner une anémie qui va être régénérative et qui va être d'installation brutale. Donc ça a été clairement montré pour les anticorps et ça semble également être le cas pour des anticorps comme l'anti-KPA ou l'anti-grand M dont on parlait tout à l'heure. Alors ici, donc, vous avez représenté le tableau avec les principales spécificités à risque. Donc bien sûr, l'anti-D nettement devant, suivi de l'anti-quel aussi. Et puis l'anti-petit-C, de manière plus exceptionnelle, mais on en trouve quand même relativement des cas d'anémie fœtale sévère avec un anti-grand E. Il y a d'autres anticorps qui, avec des taux élevés, ont aussi été impliqués dans des cas d'anémie fœtale. Et puis d'autres où il y a uniquement des cas d'anémie néonatale, de maladies hémolytiques néonatales qui ont été décrits. Concernant la détermination de l'affinité des anticorps, donc c'est la technique de titrage qui est la technique de prédilection. Donc c'est une technique dans laquelle on va faire des dilutions géométriques de raison 2 du plasma de la patiente qui contient les anticorps et qu'on va mettre en contact avec les hémacytes qui portent l'antigène correspondant. Donc le titre correspond à l'inverse de la dernière dilution réactive. Donc plusieurs techniques peuvent être utilisées. La technique tube, hein, donc on est en milieu salin. C'est la technique de référence. Donc vous voyez, selon les différents dilutions, on a une agglutination qui va diminuer au fur et à mesure des dilutions. On va ici pouvoir avoir on va pouvoir déterminer un titre à 16 dans le cas de cette patiente. Et la technique gel, donc où on va travailler en milieu basse force ionique, dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui va augmenter modifier un petit peu la réaction. Et donc on va pouvoir aussi lire le titre en regardant la dernière dilution réactive. On peut affiner un petit peu le résultat du titrage avec le score. Donc en fait, on va coter à chaque dilution l'intensité de la réaction des agglutinations. Donc il y a des ABAC pour déterminer l'intensité de la réaction d'agglutination selon les techniques utilisées. Et grâce au score, on va pouvoir avoir un chiffre un petit peu plus précis et quantifier un peu plus précisément, rajouter une quantification plus précise. Quand on regarde les études qui vont essayer de corréler le titrage tube avec l'effet clinique, donc on se rend compte qu'effectivement on a ici une courbe ROC avec une aire sous courbe qui est quand même nettement supérieure à 0,5, mais qui n'est pas non plus c'est pas un test très performant. Quand on essaie dans la littérature aussi on trouve des études qui montrent cependant que plus on a un titrage élevé. Donc plus le titre va être élevé, plus on a un risque effectivement qu'il y ait une atteinte, qu'il y ait nécessité de faire une thérapie néonatale. Et plus le titre augmente encore, on va avoir aussi nécessité d'avoir une thérapie fœtale, donc des transfusions fœtales. Donc il y a quand même un lien entre le titre et la sévérité de la maladie hémolytique néonatale, enfin fœtale ou néonatale, mais on se rend compte qu'effectivement pour un titre donné, par exemple ici à 512, vous avez une certaine proportion d'enfants qui ne vont pas avoir besoin de thérapie, d'autres qui vont avoir besoin uniquement d'une thérapie néonatale et d'autres qui vont avoir nécessité d'avoir une thérapie fœtale. Donc ce n'est pas un test vraiment discriminant pour déterminer la sévérité de la maladie hémolytique qui va se développer. Donc du coup, comme ce n'est pas discriminant, on est obligé de travailler sous forme avec des seuils. C'est-à-dire qu'en fait, on va définir un seuil à partir duquel on estime qu'il y a un risque et pour lequel il faut un suivi particulier de la grossesse. Donc ce seuil a été historiquement établi à 16. Et c'est un seuil qui est maintenant, pour la technique tube, utilisé dans de très nombreux pays. Alors l'inconvénient de la technique de titrage aussi, c'est le problème donc, de la variabilité, de la reproductibilité des résultats. Parce que c'est une technique, c'est vrai, comme on fait des dilutions de 2 en 2, qui du coup peut varier facilement d'un facteur de 100% si on a une dilution des cas. Alors, le titrage gel, donc c'est des techniques qui ont été développées ensuite. Donc l'intérêt, c'est que le gel, on peut automatiser, il n'y a pas besoin de faire des lavages, on peut aussi lire de manière automatique les intensités d'agglutination. Donc tout semble être une bonne approche. Mais donc le problème, c'est que plusieurs essais comparatifs, en comparant donc le titrage gel avec le titrage tube, montraient que les titrages gel avaient des titres beaucoup plus élevés que les titrage gel plus élevé que les titrages tubes, donc probablement dû à l'impact du milieu de basse force ionique donc qui augmente, qui permet de détecter les anticorps donc de faible affinité. Du coup, ça nécessite de définir des seuils différents pour les techniques tubes et gel, donc avec un risque du coup de confusion pour les cliniciens, puisqu'en fonction de la technique utilisée, le seuil pourrait être différent. Donc on peut quand même se dire, voilà, on pourrait définir par exemple un titre à 64 pour l'anti-D pour avoir un seuil de suivi. Simplement, le problème, c'est qu'on se rend compte aussi que pour un titre tube donné, selon les patients, on va avoir un titre en gel qui va être très variable. Et ça peut varier jusqu'à 5 à 6 dilutions d'écart, comme on le voit dans cette étude. Donc, ce n'est pas si évident que ça de définir un seuil. Donc, notre propre étude confirme effectivement les résultats qui ont été montrés dans l'étude précédente. Et en plus, montre que, certes, pour les anti-RH, on est effectivement avec des dilutions des résultats supérieurs en technique gel, mais pour d'autres anticorps, on peut avoir des titres qui sont plus bas. C'est le cas notamment des anti-JK et des anti-grand M. On a des titres en gel, qui sont en général inférieurs aux titres en tube. Et pour l'antiquel, on peut avoir des titres qui peuvent être supérieurs ou inférieurs selon quand on compare le résultat en tube et en gel. Donc ce n'est pas si évident que ça. Et effectivement, pour définir des seuils critiques en technique gel, ça nécessiterait d'avoir une étude sur un grand nombre d'échantillons. Et on ne trouve pas vraiment de ce type d'études dans la littérature. Concernant la concentration des anticorps, donc la technique initiale, donc historiquement donc dans les années 70, qui a été mise au point, c'est la technique d'émagglutination en flux continu. Donc brièvement, le sérum des patients est mis en contact avec donc, des hématies porteuses de l'antigène, et dans un flux, il va y avoir ajout d'une macromolécule type PVP qui va favoriser l'agglutination. Les agglutinats vont ensuite être piégés et seuls les hématies laissées libres en solution vont continuer à circuler dans le flux et ensuite être hémolysées par l'ajout de tritons. Et on va lire donc l'intensité, la densité optique, l'absorbance de l'hémoglobine. Donc en fait, plus l'absorbance est élevée, ça veut dire qu'il y a plus il y a d'hématies libres en solution, donc moins il y a d'agglutinats, donc moins il y a d'anticorps. C'est une technique en chimie inverse. Donc c'est une technique qui a été développée au Royaume-Uni, qui est encore utilisée actuellement pour doser les anticorps anti-D et anti-petit C vis-à-vis des massies qui sont d'expression homozygote pour l'antigène correspondant. Et donc elles sont dosées par rapport à des étalons internationaux anti-D et anti-petit C, ce qui permet de rendre pour ces deux anticorps des résultats en unité internationale. En France, historiquement, la stratégie a été différente. On a voulu pouvoir doser les 5 anticorps principaux du système RH, donc le D, le petit C, mais également le grand C, le grand T et le petit E. Donc on travaille avec des hématies qui expriment les 5 antigènes, et comme étalon, on prend l'étalon international anti-D, ce qui permet de rendre des résultats en unité internationale pour l'anti-D. Par contre, on rend des résultats en unité arbitraire, donc les fameuses unités CHP pour les autres anticorps. Donc en plus, on a conservé une méthode de dosage qui a été abandonnée au Royaume-Uni. Donc au Royaume-Uni, ils utilisent des hématies qui sont préalablement bromélinées, ce qui permet de doser toutes les IgG, ce qui est également notre cas, c'est la fameuse technique de temps. Et par contre, on a continué à utiliser une technique un temps dans laquelle on va ajouter la broméline dans le circuit, ce qui va détruire les IgG3. Et donc, on va doser les anticorps. Ce sont surtout des IgG1 d'haute affinité qui sont connus pour être les sous-classes d'immunoglobuline les plus dangereuses d'un point de vue risque fœtal, puisqu'elles passent plutôt la barrière placentaire. Donc historiquement, les premières études anglaises, en regardant la pathologie au niveau du cordon à la naissance, montrent que l'anémie néonatale survient à partir d'un taux supérieur à 4 unités internationales, également pour les syndictères et puis donc pour les nécessités d'avoir recours à des transfusions, des exanguinotransfusions. Donc là encore, on se rend compte que comme pour le titrage, pour un dosage donné, on peut avoir des cliniques différentes. Donc c'est pareil, on fonctionne par seuil. 10 ans plus tard, donc une étude a été faite, cette fois sur le sang fœtal, en mesurant donc le taux d'hémoglobine au niveau du sang fœtal en fonction des dosages pondéraux. Et là, un seuil de 15 unités internationales a été déterminé pour dire qu'il y a un risque d'hydrops à partir d'un taux de 15 unités internationales. Ce sont les deux seuils qui sont encore actuellement utilisés en Angleterre dans les guidelines anglaises. Donc plus récemment, une étude irlandaise a revu le seuil, puisque effectivement, ils se sont rendus compte, vous avez ici donc en blanc, donc les grossesses pour lesquelles il n'y a pas eu besoin de thérapie fœtale et donc en foncé pour lesquelles il y a eu des thérapies, enfin nécessité de faire des transfusions fœtales avec des anémies fœtales qui ont été quantifiées comme étant sévères. Et donc effectivement, ils se rendaient compte qu'avec le seuil de 4, il y avait une proportion non négligeable de patientes pour lesquelles les fœtus n'avaient pas développé d'anémie sévère. Et inversement, pour des valeurs inférieures à 15, il y avait des cas d'anémie fœtale sévère. Donc ils ont redéfini un seuil à 6 unités internationales. Et donc, en France, historiquement, avec notre technique de dosage, notre seuil il est à 5 unités internationales. Et effectivement, ça a été revu récemment sur une cohorte de patientes suivies à la maternité Trousseau. On a le seuil de 5 unités internationales est bien adapté pour dépister les patientes pour lesquelles on va avoir besoin d'avoir recours à une transfusion fœtale. Alors, l'intérêt du dosage à un temps qu'on fait en France, on le voit au niveau des courbes ROC, au niveau de l'air sous courbe, qui est quand même plus importante pour le dosage à un temps par rapport au dosage de temps. Donc ça confirme bien l'idée que d'avoir beaucoup d'IgG1, c'est un signe de gravité. Et puis même quand on regarde indépendamment du dosage pondéral total, le rapport un temps sur deux temps, on se rend compte qu'avec un rapport élevé, donc proche de 1, ça veut dire qu'il y a une proportion importante d'IgG1 anti-D par rapport aux IgG total, on a un risque, c'est associé à un risque plus important aussi pour les patientes d'avoir une transfusion fœtale. Donc comme pour les autres études, on n'a pas vraiment de corrélation entre taux d'anticorps et sévérité de l'anémie fœtale quand on mesure le taux d'hémoglobine au moment de la première transfusion. C'est pareil pour les anémies néonatales. En revanche, pour l'ICTER, on a un lien quand même significatif entre le dernier dosage pondéral avant l'accouchement et le taux de bilirubine au cordon. Donc ça montre quand même que le taux d'anticorps est quand même lié à un processus hémolytique. Autre chose intéressante avec le dosage pondéral, donc dans la série de patientes étudiées, on avait 60% des patientes immunisées qui réactivaient, 59% qui ont eu une réactivation d'immunisation au cours de leur grossesse. Et donc quand on regarde à quel moment de la grossesse ces réactivations ont été dépistées, on se rend compte qu'avec la technique de dosage pondéral, on va détecter en moyenne 1 à 2 semaines plus tôt la réactivation par rapport à la technique de titrage score. Donc autres techniques qui ont été développées ensuite dans les années 2000, c'est les techniques ELISA. On va fixer des globules rouges entiers ou des bouts de membrane intègres dans le fond de plaque à 96 puits. On va rajouter le sérum des patientes et on va les incuber dans la plaque. On va ensuite quantifier ces anticorps par rapport à une gamme étalon en ajoutant une anti-IgG, donc marquée avec une enzyme. Ensuite, on a une réaction colorimétrique avec l'ajout d'un substrat, c'est la technique d'ELISA indirecte. Ou bien en mettant en compétition les anticorps présents dans le sérum de la patiente avec des anticorps marqués. Donc là, c'est pareil, on va avoir un signal lors de l'ajout du substrat, et c'est aussi de la chimie inverse, c'est-à-dire que plus le signal est faible, plus ça veut dire qu'il y a des anticorps de la patiente qui sont fixés, donc plus le taux d'anticorps est important. Donc c'est des techniques qui ont été développées au début des années 2000. En parallèle, donc, pour éviter ce problème donc, de fixation des globules rouges sur la plaque et conservation de la membrane intacte, il y a eu des techniques de sol ELISA qui ont été développées essentiellement par l'INTS, un travail auquel Yves Brossard avait collaboré à l'époque. Donc c'est des techniques de sol ELISA. On incube en fait le sérum des patientes avec les globules rouges en tube, donc les anticorps vont se fixer sur les globules rouges, on lave et ensuite on va donc solubiliser la membrane, soit en lisant les globules rouges, soit en faisant une élution. Et ensuite, on va pouvoir doser les IgG totales et les sous-classes d'immunoglobuline présentes dans l'ELUA. Autre technique aussi développée plus récemment, donc ce sont les techniques de cytométrie en flux. Donc c'est un peu le même principe, sauf que là, on travaille en tube. On rajoute donc le sérum de la patiente en présence des hématies, une anti-IgG qui est marquée cette fois par un fluorochrome. Les cellules vont passer une à une devant un laser qui va les exciter. Et on va pouvoir mesurer à la fois le pourcentage de cellules qui ont positives, donc sur lesquelles les anticorps maternels se sont fixés. Mais on va pouvoir aussi avoir l'information du nombre de molécules d'anticorps maternels qui se sont fixés par cellule. Donc c'est vrai que ça donne des renseignements supplémentaires qui peuvent être intéressants. Il y a très peu d'études dans la littérature qui vont corréler ces dosages par technique ELISA et cytométrie de flux à la clinique. Par contre, il y a plusieurs études qui corrèlent ces dosages avec la technique de référence qui est le dosage pondéral par hémagglutination en flux continu. Donc, il y a une étude qui a été faite en 2002 qui montre sur 9 échantillons, une étude internationale qui a été testée dans 20 laboratoires avec les résultats obtenus par les différentes techniques. Et on constate qu'on a des résultats globalement similaires. La conclusion de l'étude, c'est qu'il n'y a pas de supériorité d'un test par rapport à un autre d'un point de vue du résultat. On peut donc appliquer les mêmes seuils pour ces trois techniques. Cependant, ces techniques ont chacune des avantages et des inconvénients. Donc, l'inconvénient du dosage pondéral par hémagglutination en flux continu, c'est que la mise au point n'est pas simple et surtout ça nécessite un automate particulièrement spécialisé, donc une certaine expertise. Mais ça reste la technique de référence de la pharmacopée européenne et surtout elle est adaptée au dosage d'un grand nombre d'échantillons. On a un recul avec des données cliniques par rapport à cette technique. Les techniques ELISA, donc on a vu l'ELISA indirect, le problème du côté donc d'arriver à conserver des antigènes membranaires intègres. La technique de sol ELISA, qui est bien, mais qui paraît peu adaptée, comme il y a une étape manuelle au départ, au dosage d'un grand nombre d'échantillons. Et les techniques de cytométrie de flux, donc, qui donnent des informations intéressantes, mais qui ne sont pas non plus faciles à mettre au point, parce qu'effectivement, il y a des problèmes non seulement pour définir les différents paramètres biotechniques, mais surtout que le risque, c'est d'avoir un anticorps, une antiglobuline, qui va induire une agglutination dans le tube, ce qui fait que ça ne rendra pas possible ensuite le passage dans le cytomètre de flux. Donc, ce n'est pas si simple à mettre au point. Donc, dernière partie, l'activation des monocytes macrophages. Donc là, c'est différents types de tests. Donc on va mettre des monocytes de donneurs ou de lignées cellulaires en présence donc, du sérum de la patiente et des hématies porteuses de l'antigène. Et on va regarder comment ces monocytes macrophages s'activent. Donc soit par des tests de phagocytose, c'est le test MMA. Donc on va lire au microscope le pourcentage des monocytes qui ont phagocyté les globules rouges. Soit des techniques de réponse métabolique, donc on va mesurer la production de radicaux oxygénés par ajout de luminol, donc par des techniques de luminescence, de chimiluminescence, soit par la cytotoxicité, donc on va quantifier la lyse par la libération de chrome 51. Donc c'est des techniques qui ont été développées dès les années 80-90. Donc la DCC, c'est beaucoup aux Pays-Bas que ça a été développé, d'abord avec des lymphocytes NK, puis des monocytes. Les tests MMA plutôt aux États-Unis et les tests de chimiluminescence au Royaume-Uni. Donc, globalement, il y a une étude ici qui essaie de corréler les résultats sur 44 échantillons des dosages qui ont été effectués par la technique de chimiluminescence d'ADCC par rapport aux résultats par la dosage pondéral. Par rapport à la sévérité de la maladie hémolytique du nouveau-né, donc il y a 5 types de patients, enfin les patientes et leur fœtus ou nouveau-né sont catégorisés en 5 types, donc qui vont de pas de traitement jusqu'à traitement néonatal, traitement fœtal et morphétal in utero. Là encore, on a ici des coefficients de corrélation avec des valeurs significatives et des coefficients de corrélation qui montrent que, c'est pas très visible, mais en gros, les tests de chimiluminescence et de cytotoxicité semblent être meilleurs effectivement que le dosage pondéral, puisqu'on a des R qui sont autour de 0,72, 0,59 pour 0,54 pour le dosage pondéral. On voit également que ça a l'air d'être un peu plus discriminant au niveau des groupes, mais c'est quand même pas parfait. Donc là encore, on est obligé de travailler sous forme de seuil, puisque pour un résultat donné, comme ici, on peut avoir des cliniques différentes. Au niveau, en comparant ces tests à la technique de titrage, on a aussi une aire sous courbe qui est meilleure. Donc ça semble également être des tests plus performants que le titrage. Donc, concernant le MMA, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, une étude qui a été réalisée aussi sur 44 grossesses, donc toujours par la même équipe, avec la corrélation par rapport à la sévérité de la maladie fœtale. Donc, en dessous de cette ligne, vous avez les petits p, et ici, vous avez les R, les coefficients de corrélation. Et on se rend compte que les tests de cytotoxicité d'autoanalyseur et de dosage pondéral sont bien corrélés à la pathologie, mais là encore, les tests de cytotoxicité semblent être meilleurs que le dosage pondéral. Le test MMA semble être un peu moins bon que le dosage pondéral. En cytométrie de flux, il y a une bonne corrélation des IgG1 anti-D avec la pathologie, 0,58. Et par contre, avec les IgG3 anti-D, on a un faible coefficient de corrélation. Et d'ailleurs, ce n'est pas significatif. Et en fait, ceci s'explique quand on compare ensuite les tests utilisés avec les dosages des différentes sous-classes. On se rend compte qu'effectivement, les tests de dosage pondéraux et d'ADCC sont corrélés aux IgG1 anti-D, alors que le test de MMA est plutôt corrélé aux IgG3 anti-D. Donc, on explique du coup cette moins bonne performance du test de MMA par le fait que c'est un test qui dépend plus des IgG3 que des IgG1. Par rapport aux trois types de techniques, il y a séparées, elles présentent chacune des avantages et des inconvénients. La DCC semble très performante, le problème c'est que ça utilise des isotopes radioactifs. Il y a eu des essais avec des techniques non radioactives mais qui sont moins sensibles, moins bonnes en termes de performance. Au niveau des MMA, il y a un problème de subjectivité et puis donc de moins bonne corrélation avec la clinique. Et au niveau de la chimiluminescence, ça semble être des techniques qui pourraient être adaptées mais ça nécessite aussi des automates spécialisés. En conclusion, on n'a pas de test biologique parfait qui permette de prédire la sévérité de la maladie hémolytique fœtale ou néonatale. Ça s'explique par la complexité de la physiopathologie et par le fait que chaque test ne regarde qu'une partie du mécanisme. On est quand même limité dans ces tests. Il y a de nombreuses autres variables qu'on ne regarde pas du tout, notamment le transfert placentaire, les paramètres fœtaux. Donc ça explique aussi pourquoi on a une grande variabilité des tableaux cliniques pour un résultat donné. Finalement, ces tests ne sont utilisables que pour définir un seuil de risque à partir duquel il faut mettre en place une surveillance clinique particulière. Et ça peut être intéressant de coupler plusieurs tests, notamment le titrage avec un autre test. Ça donne des informations différentes en termes d'affinité et de concentration et ou de capacité à activer les macrophages. Si on regarde comment sont utilisés ces différents tests au niveau mondial, donc bien sûr l'identification des anticorps c'est mondial, le titrage aussi c'est utilisé dans tous les pays, donc la majorité des pays utilisent plutôt des titrages tubes, dans d'autres pays ce sont des titrages gel. Donc au niveau des techniques de dosage, elles sont moins utilisées, donc c'est surtout en Europe, notamment donc en France et en Royaume-Uni pour les dosages pondéraux en hémagglutination flux continu, et puis les pays scandinaves plutôt pour tout ce qui est ELISA et cytométrie de flux. Les tests fonctionnels d'activation macrophagique ne sont plus pratiqués qu'aux Pays-Bas. Ça a été abandonné au Royaume-Uni et aux États-Unis. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'avant les années 2000, le suivi, quand on avait un taux qui dépassait le seuil, le suivi qui était mis en place, ça impliquait la réalisation d'actes invasifs qui entraînaient des risques de perte fœtale et de réactivation de l'immunisation. Donc des amniosynthèses pour mesure de la bilirubinémie et l'indice de Lillet, des ponctions de sang fœtal pour mesurer l'hémoglobine fœtale. Et c'est vrai que depuis l'article de Marie en 2000, dans le New England Journal of Medicine, quand on peut suivre donc par des vélocimétries et avoir un reflet indirect de l'anémie. Et finalement, il est moins important d'avoir le meilleur test, d'avoir le meilleur seuil, puisque ce n'est pas grave si on surveille en trop certaines patientes. Donc des laboratoires, du coup, ils ont conservé leurs techniques de prédilection. Certains ont même abandonné des techniques qu'ils trouvaient lourdes, comme les techniques de démyélination en flux continu ou les tests cellulaires, malgré leur intérêt, puisqu'on a vu quand même que ça pouvait limiter le suivi échographique aux patients les plus à risque. Ça permettait de détecter plus rapidement des réactivations et il y avait une meilleure quand même prédiction, une meilleure anticipation du risque d'atteinte postnatale. Donc je vous remercie de votre attention.